François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien, Dan. Merci toi-même.
Oui, ça va très bien, merci. Sincèrement, j'ai rarement vu un week-end où il y a eu autant d'activités sportives. Je ne sais pas trop par où commencer. On va revenir plus tard dans l'émission avec Justin Hétier et avec Will sur le football, d'abord du Rouge et Or, mais aussi du record de Drew Brees. On va commencer par ton sport préféré, tiens. On va commencer par les séries de baseball. Un carrousel, François, est-ce que tu as appris hier que c'était le premier de l'histoire en série?
Oui, honnêtement, oui. Je pense que les occasions sont quand même assez rares. Puis, tu sais, dans le cas de Brock Holt, c'est que quand tu arrives à ta dernière présence, il te manque un circuit. Holt est surtout pas reconnu pour sa puissance, mais il y avait le luxe d'avoir un joueur de position sur la butte. Parce que les Yankees, ça faisait tellement varloper que c'est Austin Roman qui est venu lancer, un receveur qui est venu lancer la dernière manche. Mais, tu sais, c'est assez particulier. Puis ce que j'aime d'un gars comme Alex Cora, comme gérant chez les Red Sox, c'est que tu sais, aujourd'hui, c'est un match qui est très important. Tu veux pas retourner à la maison, tu veux finir ça, puis t'affrontes Ceci Sabathia, qui est un lanceur gaucher. Puis comme gérant, il faut que tu prennes des décisions. Ça veut dire que Brock Holt est sur le banc ce soir pour le match, même s'il a frappé un carrousel hier. c'est un frappeur gaucher contre un lanceur gaucher. Ouais. Pas de Devers dans la formation non plus. Puis je trouve ça intéressant parce que j'ai même vu chez les Yankees qu'on décidait de pas faire jouer le jeune Andouard ce soir pour mettre le vétéran Neil Walker. Ouais. Alors, toutes sortes de petits détails comme ça qui sont intéressants pour dire que c'est le match le plus important de l'année pour les deux équipes, encore plus pour les Yankees que pour les Red Sox. Mais faut admettre que cette série-là, il y a eu des hauts et des bas parce que le match comme hier, là, honnêtement, après la quatrième manche, c'était fini. Mais c'était quand même particulier de voir que celui, Mookie Betts en a fait un carrousel cette année. Oui. Les gars comme Yelich, comme Blackmon, mais des gars comme Brock Holt, c'est un peu plus surprenant. Mais je peux te dire une chose, c'est que Holt, c'est un excellent réserviste, un gars qui peut jouer un petit peu partout. Je suis pas convaincu qu'il est capable de jouer 160 matchs dans une saison puis de mettre des statistiques à tous les jours, mais c'est un réserviste de luxe que les Red Sox ont, puis hier, il a fait tout un travail pour aider son équipe à gagner.
Pour les plus vieux comme moi qui se souviennent des expos, c'est un genre de FP Santangelo.
C'est un bon exemple, c'est un très bon exemple. Parce que, tu sais, des gars qui peuvent jouer à l'avant-champ et au champ extérieur, il n'y en a pas une tonne. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables de le faire, mais il y en a d'autres que, tu sais, c'est fantastique. L'autre exemple que je peux te donner, c'est Marwin Gonzalez avec les Astros. Oui. Les gens qui font des pôles de baseball, puis que, tu sais, souvent, ça prend un joueur a besoin de 5 ou 10 matchs à une position pour être éligible. C'est incroyable, tu sais. Gonzalez était voltigeur de gauche, troisième but. Arrêt court, deuxième but et premier but éligible cette année. Puis, tu sais, il pourrait jouer au champ centre ou au champ droit pour dépanner sans trop de problèmes. Mais ça, pour un gérant, là, c'est l'idéal. Quand il y a un joueur qui se blesse, quand tu as besoin de donner un congé, tu as toujours quelqu'un qui est prêt, peu importe la position. Fait que c'est. Je pense que ton exemple de FP Santangelo est très bon.
François, Alex Cora et Aaron Boone, c'est deux gérants recrues. Je pense, on disait que c'était une première pour le carrousel, je pense également que c'est une première que deux gérants recrues s'affrontent en série, hein?
Écoute, en tout cas, si c'est déjà arrivé, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire, puis le scénario est différent pour les deux, mais la pression est quand même là, tu sais, je pense que dans le cas des Red Sox, tout d'abord, tu bats un record de concession pour le nombre de victoires, mais moi, j'ai encore des grosses inquiétudes, Dan, sur la profondeur de la relève, sur le lien qu'on va faire entre le lanceur partant et Craig Kimbrell. Ouais. Et si les Red Sox passent, t'as tellement de lanceurs gauchers dans, tu sais, tes bons lanceurs qui sont supposés être tes meilleurs, comme Sale, comme Price, Rodriguez, qui est supposé être ton arme en relève. Et je pense que les Astros ne seront pas intimidés parce qu'ils ont beaucoup de frappeurs droitiers, puis que c'est peut-être ça qui va causer la perte des Red Sox. Mais du côté d'Aaron Boone aussi, il y a de la pression parce que, tu sais, Girardi est parti.
Il s'est fait critiquer hier aussi.
Eh bien, critiqué, puis pas à peu près. Puis lui, Boone disait qu'il avait décidé d'écouter de la musique en revenant, au lieu d'écouter les lignes ouvertes. Mais j'ai tellement reçu de messages textes qui me disaient « Garde la tête haute ». Je comprenais que j'étais en train de me faire varloper sur les lignes ouvertes de New York parce que on lui a reproché d'avoir gardé Luis Severino trop longtemps en quatrième. Tu sais, c'était 3-0 à ce moment-là. Ouais. La chaîne a débarqué en quatrième quand ils ont donné 7 points. Mais oublie jamais qu'Aaron Boone arrive puis il remplace un gars comme Joe Girardi qui a été là pendant 10 ans, qui a gagné la Série mondiale, qui, je pense, est un gérant qui faisait les choses à sa façon, mais qui était quand même très apprécié des médias et des gens qui le côtoyaient jour après jour, puis qui a eu quand même un certain succès. Puis là, ben l'an passé, les Yankees sont venus à une victoire près d'aller en Série mondiale, donc les attentes sont quand même élevées. Mais on a l'air un petit peu mal pris sur la butte depuis le début des séries. Puis dans un match comme ce soir, ce que tu veux, c'est que Sabathia te garde dans le match pendant 3, 4, 5 manches, ce sera un luxe. Puis après ça, tu vas toutes les voir défiler un après l'autre. Robertson, Betances, Chapman, Green et compagnie. Je pense que c'est ça la recette du succès pour les Yankees. On marque quelques points, on réussit à se sauver avec nos releveurs. On a une journée de congé demain, puis un match 5 où tu peux arriver par la suite. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Mais le duel de lanceurs avantage les Red Sox, je pense, avec Porcello. Mais hier, je disais la même chose en parlant des Yankees. Je trouvais que Severino, c'était un avantage chez Eovaldi. Puis regarde, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Donc, bien curieux de voir quel genre de match on va avoir ce soir pour le match numéro 4.
François, on disait que Aaron Boone a été critiqué, mais je pense que la personne impliquée dans ce match-là qui s'est fait le plus critiquer hier, c'est l'arbitre au premier but.
Ben, c'est quoi la mauvaise nouvelle? En passant, c'est Angel Hernandez qui, depuis, écoute Dan, depuis 7 ou 8 ans, c'est lui qui gagne le sondage à chaque année du pire officiel dans le baseball majeur.
Est-ce que j'ai compris qu'il arbitre au marbre ce soir?
C'est exactement ce que j'allais dire, puis c'est ça mon inquiétude un peu, parce que honnêtement, tu sais, puis c'est pas facile à être arbitre, c'est pas facile dans aucun sport, là, c'est très difficile, mais je veux dire, Angel Hernandez est pas un arbitre du calibre du baseball majeur. C'est un gars qui, tu sais, puis c'est plate à dire, mais je veux dire, c'est le syndicat des arbitres qui l'a gardé là avec son expérience, puis le fait qu'il est là depuis quand même un bon bout de temps.
Ouais, mais il pourrait surveiller la ligne dans le champ droit.
Puis encore là, je suis pas mal sûr qu'il réussirait à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. C'est parce que, tu sais, c'est un gars qui... Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas quand t'es arbitre au niveau du jugement. Ça s'achète pas du jugement. Puis Hernandez, c'est pas un bon officiel. Il y en a 4 ou 5 comme ça dans le baseball majeur. Là, okay. Steve Buckner puis ces gars-là qui... Tu sais, à chaque année, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Il y a des officiels, des fois, qui sont bons, mais que leur attitude fait en sorte que les gens les détestent. Mais dans le cas d'Hernandez, c'est comme le mélange des deux, parce que c'est un gars qui manque de jugement, qui souvent, tu sais, lui, il dit qu'il a pris la bonne décision, puis ça fait des flamèches. Puis j'ai hâte de voir, parce qu'habituellement, derrière le marbre, il est tellement pas constant dans sa zone que des fois ça donne, tu sais, non seulement les frappeurs viennent qu'à l'haïr, mais les lanceurs aussi, puis ça finit que la tension monte. Donc c'est plate à dire, mais je pense que ce gars-là ne devrait plus arbitrer dans le baseball majeur, comme c'est le cas pour CB Buckner, comme c'est le cas pour Joe West, qui est rendu à je sais pas quel âge, qui est là depuis 50 ans. C'est une couple de gars comme ça qui serait dû pour la retraite. Mais j'espère simplement que demain, on va parler, tu sais, je sais pas, d'un circuit de 3 points, d'un gros retro bâton, et non pas de la performance de l'officiel derrière le match.
Donc, c'est pour des gars comme ça qu'on a amené la reprise vidéo?
Ben, écoute, hier, il y en a quoi, 3 sur 4 qu'on a changé dans ces décisions? À sa défense, il y en a au moins 2 là, que c'était excessivement serré. Tu sais, je regardais la reprise, puis probablement les gens qui ont regardé le match, tu sais, quand ça fait 5 fois, tu le vois, puis t'es pas convaincu encore à 100%. Je pense que là, faut que tu donnes le bénéfice du doute à l'officiel.
Oui. Ça va
mais
vite.
C'est exactement pour ça, Dan, qu'on a amené la reprise vidéo. Parce que dans des situations ou des matchs aussi importants, puis des décisions qui peuvent changer un match. Tu sais, regarde simplement, Dan, dans le match numéro 1, Colorado-Milwaukee. Charlie Blackmon avait frappé un double en début de 9e, puis finalement, on a ramené la décision parce que, justement, avec la reprise, on a pu confirmer que la balle était hors ligne. Oui, Blackmon avait frappé un simple plus tard, mais ça a peut-être changé complètement l'allure de la série parce qu'on a ramené cette décision-là. Puis c'était la bonne, sincèrement, de ramener la décision. Mais, tu sais, si tu retournes dans le temps, là, dans l'histoire du baseball, puis tu avais eu la reprise dans quelques matchs très importants, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu aurais des champions de série mondiale qui seraient différents dans l'histoire, parce que il y a eu des décisions dans l'histoire du baseball en série qui ont changé l'allure, tu sais, d'un match, d'une série, puis qui ont fait en sorte qu'on n'a pas eu le résultat qu'on aurait dû avoir. Donc, c'est exactement pour ça qu'on a amené la reprise vidéo, mais tu sais, c'est bon, c'est moins bon, c'est, tu sais, il y a un côté un peu plate parce que là, les matchs sont longs, il y a des reprises, il y a ci, il y a ça. À un moment donné, je trouve que ça manque un peu de rythme. Mais au moins, si tu rends la bonne décision, ben, t'as moins de chances de te faire critiquer par la suite, là.
François, si on change de sport puis on s'en va vers le hockey puis on parle brièvement du Canadien, qui a quand même surpris la planète hockey en allant battre les Pingouins samedi à Pittsburgh par 5-1 et non une victoire serrée en prolongation. Je pense que si on avait à faire le bien cuit en date d'aujourd'hui de Marc Bergevin, je pense que l'une de ses pires décisions, ça aurait été d'embaucher sur le marché des joueurs autonomes le très mauvais défenseur Carl Alzner. Mais un de ses meilleurs coups, c'est d'avoir pris au balotage Paul Byron. Je regardais jouer Paul Byron samedi. Il joue comme un gars de la Ligue nationale qui est là depuis 10 ans. Il est sur la job, si tu me prêtes l'expression. il patine, il a un très bon sens du hockey. Et le drame avec Paul Byron pour nos poules de hockey, c'est qu'on ne peut pas le sélectionner parce qu'il joue toujours sur le troisième trio avec deux gars très ordinaires. Et il aurait le talent offensif, le flair et le sens du hockey pour faire encore plus de points s'il jouait avec deux gars talentueux.
Oui, puis tu sais, c'est toujours le genre de gars qui va jouer plus de temps en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Habituellement, c'est même si tu fais ta job, c'est pas très payant pour les épaules. Puis je sais pas si dans 5 ou dans 10 ans, puis je sais pas, Marc Bergevin va travailler encore pour combien de temps comme directeur général du Canadien, mais je pense que pour le moment, il y a plusieurs de ces bons coups qui sont des coups qui sont passés un peu tu sais sous le radar. Puis Byron est probablement le plus bel exemple. Mike Riley, choix de cinquième ronde l'an passé.
Oui, puis,
écoute, on en avait à peine parlé. Les gens disaient que c'était pour venir boucher un trou. Ce gars-là est en train de sortir de sa coquille et de nous faire comprendre pourquoi tout le monde salivait à l'idée de l'avoir quand il est sorti de la NCAA. Joel Armia n'a rien cassé, mais tu sais, c'est le genre de transaction où ça t'a pas coûté grand-chose. Ce que tu as eu à faire, c'est de récupérer le contrat à Mason puis de le racheter par la suite. C'est plein de petits gestes, petites transactions qui font en sorte que c'est les meilleurs coups. T'sais, on dirait que tout ce qui a été essayé dans le coup les plus spectaculaires, puis il y a encore des transactions comme Drouin puis comme Domi qu'on va attendre pour en tirer une conclusion. Ça va probablement prendre beaucoup de temps, savoir si le Canadien a gagné ou pas ces transactions-là. Mais je trouve que c'est jamais bon signe quand ton directeur général, la plupart de ses coups qu'il réussit, ce sont des coups qui sont plus minimes. Là. Ce sont pas des coups majeurs, mais faut quand même là-dessus leur donner le crédit parce que c'est des petits détails des fois que quand Paul Byron était ramassé au balotage, les gens disaient bon, encore un autre petit joueur. C'est toujours ça qu'on entendait, mais les gens qui l'ont vu jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec le coup de patin qu'il avait, c'est certain qu'il pouvait se trouver une place, une niche dans la Ligue nationale, mais je pensais pas qu'il réussirait à produire autant. Puis même Dan, quand on lui a donné sa prolongation de contrat il y a environ quoi, 2 semaines, tu sais, ma première réaction au départ, c'est de dire c'est quand même beaucoup d'argent pour un grinder de luxe, mais comme tu as mentionné, c'est que quand tu le vois jouer des matchs comme samedi où il fait en sorte que son coup de patin puis son flair offensif lui donne un avantage sur bien d'autres joueurs, je pense que ce gars-là mérite amplement son chèque de paye parce qu'il est des travailleurs acharnés, mais aussi talentueux. Il n'y en a pas une tonne non plus dans la Ligue nationale de hockey.
Tout comme moi, tu as dû lire l'histoire saisissante concernant Lyle O'Dolan qui va être à Montréal cette semaine pour le 25 ans de la Coupe Stanley de 93. J'ai l'impression que c'est une fête sans le jubilaire jeudi soir au Centre Bell. Patrick Roy les a fait gagner une Coupe Stanley en 93. Il dirige les Remparts maintenant. Puis il a fait une petite vidéo qu'on va présenter au Centre Bell. Mais il me semble que Martin Laperrière, pour jeudi, il aurait pu coacher l'équipe juste pour un soir.
Ben en fait, tu sais, moi, je te dirais que c'est le deuxième membre le plus important qui sera pas là. L'autre, je sais pas s'il va être là, mais Jacques Demers,
oui.
Même s'il est là, évidemment, les problèmes de santé. Parce que pour moi, 93, c'est deux noms. Là. C'est Patrick Roy, mais c'est aussi Jacques Demers.
Exact. Et,
Jacques Demers, écoute, si les gens ont jamais eu la chance de lire sa biographie, prenez le temps de faire ça. C'est en français. C'est fantastique de voir l'histoire d'un gars qui a connu une jeunesse excessivement difficile. Tu sais, que même ton père t'a dit que tu iras pas loin dans la vie, puis que tu te retrouves à gagner la Coupe Stanley. Les gens de RDS avaient fait, je pense, un 25 ans d'émotion là-dessus avec Jacques Demers. C'était fantastique comme émission. Puis je suis d'accord avec toi pour dire que ça va donner... Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas qui seront tous les joueurs qui seront là, mais assurément, tu sais, il te manque le gars qui a été ton joueur par excellence. Et ton entraîneur-chef n'a plus l'usage de la parole, donc ça va peut-être perdre un petit peu de son lustre. Mais l'histoire du Canadien de 93 va quand même rester une histoire très particulière, qu'on aime ou non le Canadien. Puis évidemment, à l'époque, on le vit encore plus mal parce que les gens se rappellent que les Nordiques avaient gagné les deux premiers matchs pour se faire éliminer par la suite. C'est sûr qu'on n'avait pas le Canadien dans notre cœur. Mais si vous prenez le temps de regarder à nouveau les séries, les 10 victoires en prolongation consécutive, ça, ce sera jamais revu dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Puis, tu sais, il y avait plein de gars, là, des Gilbert Dionne, des Paul Di Pietro, puis vraiment, je te parlais tantôt de grinder de luxe, là, des gars qui ont connu les meilleurs moments de leur carrière lors de ces séries-là. Puis, il y a quelques gars qui étaient sortis de leur coquille aussi. Donc, l'histoire est vraiment quand même assez incroyable. Puis, ça reste aussi la dernière équipe canadienne qui a gagné une Coupe Stanley. C'est assez incroyable de se dire ça. Donc, je sais pas, la prochaine Coupe Stanley au Canada est peut-être plus proche qu'on pense avec les Jets puis les Maple Leafs, mais pour nous, dans notre cours, on risque d'attendre encore un bon bout de temps.
Mais les fans de Kotkaniemi, eux autres, pensent que ça va arriver à Montréal avant Winnipeg et Toronto. François, sois prudent.
Et moi, je vais te dire une chose, c'est que je pense que même les gens vont déchanter assez rapidement cette année sur les résultats. Je pense que le travail, tu sais, les gens aiment l'éthique de travail. Ouais.
Mais ça va être moins pire s'ils perdent puis ils travaillent.
Je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que je pense que les gens, tu sais, écoute, on a toujours été comme ça, on est un peu bipolaire au niveau du sport. Les gens deviennent complètement fous parce que le Canadien réussit à aller gagner à Pittsburgh, puis c'est une très belle victoire. Mais hey, là, c'est quand les gens commencent à parler de série, on va se calmer une petite seconde. Là, t'as aucune profondeur, ou surtout que t'as une blessure, t'es dans le trap. Puis j'ai hâte d'avoir un club jeune, un peu fragile. À un moment donné, tu t'en vas, je sais pas, un voyage dans l'Ouest, là, Anaheim, Los Angeles, San Jose et compagnie. Et je suis pas sûr que le Canadien va faire le poids dans des situations comme ça. Mais au moins, tu sais, comme tu dis, ils travaillent, ils gagnent quelques matchs en début de saison, ça peut peut-être te garder dans la course un petit peu plus longtemps. Mais je pense que les choses pourraient changer très, très, très rapidement quand on va frapper un mur. Je sais pas si ça va être d'inexpérience, de manque de profondeur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que le Canadien va réellement frapper un mur.
Et juste pour compléter sur Jacques Demers, pour la Coupe de 93, François, je pense que le meilleur flair ou la meilleure décision que Jacques Demers aura prise, ça aura été de devenir chum avec Patrick Roy puis de lui faire confiance.
Oui. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu des flamèches quand Mario Tremblay est arrivé, tu sais, dans les années. Écoute, Jacques Demers, c'est en 93, il a été congédié je pense que c'est début 95 ou 96 qu'il a été congédié. Puis les gens connaissent un peu l'histoire quand Mario Tremblay arrive dans le vestiaire, puis.
Il fait l'inverse de Jacques Demers.
Oui, puis tu sais, son anglais un petit peu saccadé, puis bon, on dit que Patrick était parti à rire, puis que tu sais, c'était juste à cause de son accent, puis ça avait bien mal commencé, puis c'était sûr que ça allait mal finir, puis c'était tout le contraire. Puis je pense que Jacques Demers avait compris ça, que non seulement Patrick Roy était ta vedette, mais dans l'attitude de Patrick, je pense que c'était le coach parfait, parce que tu sais, c'était « Viens t'asseoir dans mon bureau. Quand est-ce que tu veux garder les buts? Parfait. Tu sais, après une période, ça a mal été. Tu veux-tu rester dans le match? » Ou, tu sais, c'est pas « Je prends la décision. » Je pense qu'on travaillait main dans la main, puis il s'est assuré d'avoir son meilleur joueur de son bord, puis que son meilleur joueur lève son jeu d'un cran en série. Puis je pense que c'est pas avec n'importe quel entraîneur. Pas n'importe quel entraîneur pouvait faire ça avec n'importe quel joueur, mais là, je pense que le fit était parfait dans l'attitude du coach vers le joueur. Puis je pense que là-dessus, Patrick pourrait te le confirmer que chaque minute qui a passé sous la gouverne de Jacques Demers, je pense qu'il l'a apprécié avec le Canadien de Montréal.
Absolument. Gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.